Vous êtes sur RTL.
7h45, merci à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Bonjour
Monseigneur Aupetit. Bonjour madame, bonjour à tous.
Je rappelle au passage que vous étiez médecin jusqu'à 39 ans avant de devenir prêtre, aujourd'hui archevêque. Et comme les médecins sont au cœur du débat aussi, un des acteurs du débat sur l'extension de la PMA à toutes les femmes dont on va parler, je trouvais intéressant de le rappeler. La société a changé, Monseigneur. Les familles sont multiples. Les formes de couple aussi. L'Église refuse d'évoluer avec la société ?
Non, l'Église pose des questions et je pense qu'elle est légitime quand elle pose des questions, comme tout citoyen d'ailleurs. On a le droit de poser des questions. La question c'est est-ce qu'il y a une filiation qui est adéquate ? Est-ce qu'il y a une filiation qui est digne de l'homme ? La PMA, c'est pas seulement la question d'évolution de la société. La PMA posait des questions déjà dès le départ. C'est-à-dire que les embryons surnuméraires posent des questions. Je me rappelle, je donnais un cours à la faculté de médecine de Créteil. Et après moi, il y avait la chef de service de l'obstétrique de Necker. Et les étudiants, ils me demandaient, mais qu'est-ce que vous allez faire des embryons surnuméraires? À ce moment-là, on savait pas ce qu'on allait en faire.
Donc, des embryons en surnombre, voilà.
C'est ça, des embryons qu'on a créés, justement, et qu'on n'utilise pas. Et la question se posait, qu'est-ce qu'on va en faire? À ce moment-là, il n'y avait rien de décidé. Mais aujourd'hui, bon, ben, soit on les détruit, soit on les donne à l'expérimentation, soit on les garde pour une implantation éventuelle. Donc ça veut dire que, et qu'est-ce que c'est cet embryon ? Nous avons tous été des embryons, donc la première question éthique,
l'embryon,
c'est celle-ci.
C'est la vie ? L'embryon, c'est un enfant à devenir ? C'est pour vous détruire un embryon ?
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'embryologie. Il suffit simplement de garder l'embryologie. Si vous regardez simplement une échographie, on voit bien que les enfants sont vivants. Et voilà. La question, c'est quel est le statut de l'embryon ? En Allemagne, en Allemagne qui est à mon avis plus éthiquement avancée que nous, l'embryon a un statut, c'est-à-dire il doit être considéré comme une personne. En France, c'est personne potentielle. Donc on voit bien que là,
pour
il y a
vous,
une
l'embryon,
première question.
C'est un enfant.
C'est en tous les cas, c'est un être vivant qui est en train de se développer.
C'est ce
et ça,
que
c'est,
vous
un,
dites.
C'est incontestable. C'est une description médicale.
Vous me dites, vous posez des questions. Vous dites, vous allez au-delà. Vous donnez vos réponses. Et votre réponse, je dis, dans un texte de plus d'une centaine de pages au débat public qui a commencé dans le cadre de la révision des lois bioéthiques sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, c'est non.
C'est non.
Votre réponse, c'est non.
C'est non, parce que ça ne nous paraît pas adéquat pour l'enfant qui va venir sous cette forme-là.
Pourquoi ?
Tout simplement, parce que je vous dis, la première question éthique, c'était la question de l'embryon surnuméraire. La deuxième question, c'est un tiers donneur. Mais ça, c'est les PMA pour... C'est la PMA tout court, hein, c'est pas seulement pour les femmes seules.
La PMA aujourd'hui, un tiers donneur.
Un tiers donneur qui fait qu'il y a quelque chose qui s'introduit dans la filiation, et puis ensuite, c'est la possibilité, malheureusement, c'est aux États-Unis, pas chez nous, et ça, c'est une chance pour nous, d'une sélection d'embryons, comme on trie un petit peu les lentilles. C'est-à-dire qu'on va choisir un embryon en fonction de la couleur des yeux. Certaines cliniques le font. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'eugénisme qui peut arriver à partir de là. Après, pour les femmes qui auraient un enfant seul, c'est introduire effectivement l'absence de paternité. C'est l'introduire, l'institutionnaliser.
Parce que pour vous, la référence absolue de la famille, ça reste un père, une mère autour des enfants.
Non, la référence, c'est simplement que l'enfant a le droit d'être élevé par son père et par sa mère. C'est ce que disent d'ailleurs la Déclaration des droits de l'enfant de l'ONU de 91. Le problème, c'est que si le père est simplement un donneur de gamètes, eh bien, le fait même de la paternité disparaît. C'est-à-dire que...
Il y a déjà beaucoup de femmes qui élèvent des enfants seuls.
Oui, bien sûr, mais nous les accompagnons. Vous savez, justement, dans nos paroisses, nous avons beaucoup de femmes seules qui ont été abandonnées par le père de l'enfant, et nous les accompagnons, nous les aidons. À ce titre, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un curé... Il y avait une femme comme ça qui m'expliquait que quand l'enfant est petit, ça se passe très très bien, mais quand il est adolescent, c'est beaucoup plus difficile. Alors elle disait au curé...
Mais c'est très difficile aussi pour des couples de parents face à un adolescent. Lorsque vous rencontrez une femme seule, Monseigneur, qui a un désir d'enfant, et qui a donc une souffrance, vous ne lui portez pas secours.
Attendez, la question, c'est la souffrance de cette femme est incontestable. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de la souffrance des femmes stériles. Mais là, c'est pas une question de stérilité. Il y a une différence entre un couple stérile et des femmes qui veulent avoir un enfant autrement que par des manières techniques, par des questions techniques.
Mais la souffrance peut être la même ?
La souffrance peut être la même, mais elle n'est pas tout à fait égale, si vous voulez. La situation d'un couple homme-femme qui ne peut pas avoir d'enfant et pour laquelle la médecine propose une solution, c'est-à-dire ce que propose toujours la médecine, et le fait d'institutionnaliser quelque chose, c'est-à-dire d'utiliser la technique pour aller au-delà, c'est pas de situation égale.
Oui, mais la technique, elle peut aussi répondre à, comment dirais-je, à un défaut de la nature, entre guillemets.
Mais c'est pas un défaut de la nature, ces femmes sont pas stériles.
Non, mais ces femmes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble.
Elles ne peuvent pas avoir d'enfants, bien sûr, mais elles ne sont pas stériles. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de répondre à une pathologie.
Je voudrais revenir à l'intérêt de l'enfant, puisque vous dites que vous vous situez du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Est-ce que le juge de paix, Monseigneur, ça n'est pas l'amour? Voilà, l'amour qu'on peut porter à un enfant. Et il peut être, vous dites, ça n'est pas égal. Il peut être absolument égal et même supérieur, cet amour qu'on donne à un enfant, quelle que soit la structure du couple.
La capacité d'aimer, la capacité d'avoir de l'affection, la capacité de tendresse. La question, c'est comment l'enfant se situe dans une filiation. Nous sommes toujours fils d'eux. Moi, je suis né de l'acte d'amour de mon père et de ma mère. Et j'en suis très heureux. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils aient voulu me concevoir parce que leur situation matérielle ne le permettait pas. Mais moi, j'étais accueilli et aimé. Mais je suis heureux aussi d'avoir pu avoir cette référence de cet acte d'amour par lequel je suis né et d'avoir pu grandir entre le père et la mère qui, pour moi, ont été des références par lesquelles je me situe.
Mais vous écrivez dans votre texte que la procréation est constitutive de la dignité de la personne. Donc, la procréation garantit la dignité de la personne. Est-ce que elle en a absolument l'exclusivité? Est-ce que la dignité de la personne dépend en exclusivité de l'acte de la procréation?
La dignité de la personne dépend de la manière justement dont on pense sa vie, de la manière dont on le conçoit. C'est une personne, c'est d'abord quelqu'un qui peut entrer en relation. Vous savez que pour apprendre à être père ou mère, un jour il faut apprendre à être fils déjà. Mmh. La première chose, c'est d'apprendre à être fils, de se recevoir d'un autre. Comment on se reçoit d'un autre?
Oui, eh bien.
Eh bien, c'est la question. Justement, est-ce que vous pensez qu'on peut se recevoir simplement de quelqu'un qui désire pour vous? Parce que, vous savez, il y a le projet parental. Mais le projet parental, autrefois, Jacques Brel chantait « Il sera pharmacien parce que papa ne l'était pas ». Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. C'est pas seulement une frustration d'un père qui voudrait que son fils fasse ce qu'il n'a pas réussi à faire. C'est quelque part quelque chose d'un projet coercitif. Moi, je sais que mes parents m'ont pas forcément désiré, mais ça m'a donné une liberté extraordinaire.
Vous dites qu'il y a un risque de marchandisation, c'est aussi cela que vous mettez en avant. Agnès Buzyn vous a répondu vendredi, il n'est pas question de légaliser la gestation pour autrui, puisque c'est cela que vous craignez dans la foulée de la PMA.
Bon, on peut le penser, de toute façon c'est comme ça que ça se passe au départ, le mariage pour tous ne devait pas aboutir à la PMA. On voit qu'on arrive à la PMA pour les femmes seules ou les femmes en couple, et bon, on arrivera très vite à la GPA au nom de l'égalité.
Il y a de la naïveté de penser le contraire et de le dire, c'est une façon de tromper le monde.
Non, je ne sais pas. Je ne veux pas juger les intentions des personnes.
C'est ce que vous dites, c'est une forme de naïveté.
Je ne sais pas si c'est de la naïveté. Je ne porte pas jugement sur les intentions. Je dis simplement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on aboutira nécessairement à la GPA. Il y a quand même une forme de chosification de l'embryon qui devient non plus quelque chose d'accueilli pour lui-même, mais quelque chose qui rentre dans un projet qui le dépasse.
Mais ça n'est pas le droit de l'enfant qui est mis en avant. C'est le droit des femmes, en l'occurrence, à avoir un enfant. C'est très différent.
Et le droit de l'enfant, il doit être premier, c'est-à-dire l'intérêt...
Enfin, le droit à un enfant, pas le droit à un enfant, la chosification, c'est ce que vous voulez dire.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être premier, puisque c'est lui qui ne peut pas s'exprimer. Infant, ça veut dire sans parole en latin, et si justement, comment? Il faut bien qu'il y ait une parole pour lui.
Une femme?
Pardon?
Qu'est-ce qu'il veut dire sans parole?
Infants, enfant, c'est l'étymologie du mot, ça veut dire sans parole, et il est sans parole, donc on doit, et d'ailleurs c'est ce que disait le Conseil d'État, hein, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être premier.
Vous attendez quoi de cette prise de position, Monseigneur Petit?
Cette prise de position, simplement, que nous faisons valoir une pensée, une réflexion, et que pour dialoguer, il faut pouvoir avoir des réflexions contradictoires.
L'Église est prête à s'associer à des manifestations anti-extension de la PMA?
L'Église n'est pas faite pour faire des manifestations. L'Église est dire pour dire une parole. Elle a reçu une parole.
Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la manifestation de votre hostilité?
Nous continuerons à dire ce que nous pensons juste, tout simplement.
À vous associer à la Manif pour tous, par exemple, qui va commencer à
fournir ses armes. La Manif pour tous est une expression de citoyens. les manifestations sont une expression de citoyen comme la politique est une expression citoyenne. Nous ne sommes pas chargés de politique et d'ailleurs le droit canon de l'Église nous empêche de faire de la politique et je pense qu'à juste titre.
Et vous, au titre de citoyen, vous défilerez éventuellement ?
Ah bah au titre de citoyen, je fais ce que je veux, bien entendu. Au titre d'évêque,
comme vous l'avez
non.
déjà fait d'ailleurs.
Au titre d'évêque, non, c'est pas en tant qu'évêque que je vais manifester, ce sera en tant que citoyen, parce que j'ai quand même le droit d'être un citoyen même si je suis évêque.
L'Église est secouée, Monseigneur, par une crise dramatique. Tous ces cas de pédophilie, toutes ces petites victimes de prêtres dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Pour l'Église, que ressentez-vous de la honte ?
Oh, ben, ce que je ressens, c'est qu'il était temps, effectivement, qu'on fasse quelque chose. Moi, vous savez, je prends des images qui me parlent, hein, c'est-à-dire que quand il y a un abcès dans un corps, il faut absolument donner un coup de bistouri et vider le puits complètement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce que, dans la Bible, on voit bien quand Dieu révèle le péché, c'est pour, non pas pour humilier, mais pour convertir radicalement. Il faut qu'on se convertisse radicalement par rapport à cela, c'est sûr.
Et la radicalité de cette conversion, est-ce qu'elle passerait éventuellement par la démission de Monseigneur Barbarin ? Il y a une pétition qui a été lancée par le père Vignon. Ça n'est pas banal, en raison de sa gestion de l'affaire Brenna, du nom de ce prêtre coupable d'abus. Il a demandé pardon, Monseigneur Barbarin. Certains disent qu'il doit aller plus loin, il doit démissionner.
Ah ben la démission est un acte personnel, c'est pas à moi de lui donner un conseil. D'autre part, il y a un procès qui est en cours, et moi je crois vraiment, et on travaille beaucoup, nous, avec le droit civil, avec nos autorités civiles et avec la justice. Laissons faire la justice, et après il prendra la décision qu'il voudra.
La justice d'abord,
la justice,
pas la démission d'abord.
C'est pas ça, c'est la justice d'abord doit primer. Où on a confiance dans la justice de notre pays, où on n'a pas confiance.
Merci Monseigneur Petit d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à l'un et à l'autre. Dans un instant, Cyprien City.
RTL 7h56.